France Inter. Grand bien vous fasse. Ali Rebbi.
J'ouvre une parenthèse importante. Ce soir, c'est sobre, chic et élégant.
Et agréable. Vous inquiétez pas, j'ai bien compris ça.
Je referme la parenthèse ?
Oui, je sais pas, moi je gère la musique, pas les parenthèses. Hein.
Ça me semble important de vous préciser quand même que ce soir, c'est mon mariage. Donc, je veux pas de jeu débile.
Jeu débile ?
Pas de chaise musicale ?
Pas de chaise musicale.
Et je veux surtout pas les chiffons qui tournent.
Oui, mais c'est des chiffons qui tournent, c'est pas le genre dans la maison, on fait pas ça à nous.
Très, bah c'est parfait. Ah oui, au passage, j'ai trouvé ça sur les tables, là, avec votre nom en gros.
Mes plaquettes, vous les trouvez comment ?
Ouais, bof. J'ai commencé à les enlever, si vous pouviez terminer. C'est un peu... Ouais, un petit côté... moi qui me dérange. Hein ? Vous êtes là ? Vous êtes avec moi ?
Oui, oui.
Bon, est-ce que ça vous paraît clair ?
C'est limpide ?
Eh ben, c'est très bien.
Un extrait du sens de la fête de Toledano et Nakache. Bonjour Florence Maillochon.
Bonjour.
Vous êtes sociologue, directrice de recherche au CNRS et professeure attachée à l'École normale supérieure. Et vous avez publié un ouvrage de référence passionnant, La passion du mariage, publié au PUF. Alors en 2017, 228 000 mariages célébrés, tous sexes confondus, avec la volonté de mettre en scène la fête la plus exceptionnelle de sa vie. Qu'est-ce qui a fondamentalement changé en 50 ans ?
En 50 ans, ce qui a changé, c'est que le nombre de mariages s'est effondré. Dans les années 70, vous aviez plus de 400 000 mariages célébrés par an. Et vous l'avez rappelé tout à l'heure, actuellement, on en a autour de 220 000. Donc, une diminution de moitié. Mais pour autant, des changements aussi dans la configuration des relations. C'est-à-dire qu'on se marie plus pour vivre en couple, mais maintenant, on se marie éventuellement pour, en quelque sorte, consacrer une vie de couple qui existe déjà depuis longtemps, voire une vie de famille. Donc, puisque ce n'est plus un début de vie commune, mais plutôt l'expression de la vie commune, le mariage a changé de sens et il a changé de forme aussi. C'est pour ça qu'on a des fêtes qui sont relativement différentes de celles qui étaient pratiquées dans les années 70.
Or, ce qui frappe dans les années 2000-2010, c'est le désir de personnaliser à tout prix son mariage, avec un goût pour le luxe de plus en plus affirmé. Cette obsession de la personnalisation, c'est un marqueur de l'époque, tout milieu confondu.
Oui, absolument. Je pense que cette personnalisation, elle vient de deux choses en fait. C'est une personnalisation du mariage d'abord parce que, je l'ai dit tout à l'heure, le mariage arrive à la fin du, enfin à la fin du couple, non mais éventuellement comme une cerise sur le gâteau du couple. Donc ce n'est pas nécessaire actuellement. Donc évidemment cette fête qui est organisée par les couples désormais et non pas par les familles va exprimer le couple. Donc là on ressent ce besoin de personnalisation du couple. Donc cette transformation des conjugalités l'explique en partie. Mais il faut la replacer, cette personnalisation, dans un phénomène social beaucoup plus large, qui est un phénomène global. C'est-à-dire qu'on est dans un monde où la réussite individuelle est absolument importante, où en fait on nous vend de la personnalisation dans tous les domaines de la vie. C'est-à-dire que vous achetiez une paire de chaussures, une cuisine, un appartement ou une robe de mariée, tout cela doit être personnalisé pour réaliser l'individu que vous êtes.
Alors j'ai l'impression que se marier semble aujourd'hui plus important qu'être marié. Alors on ne sait pas si le mariage durera, mais au moins faisons en sorte que la fête soit vraiment inoubliable, unique, exceptionnelle.
Oui, mais ça vient justement du fait que le mariage n'est pas nécessaire. Alors s'il n'est pas nécessaire, il prend une forme presque de talisman, si vous voulez. C'est un symbole très fort, du coup, de se marier, alors que finalement, la plupart des gens, à l'heure actuelle, continuent à vivre en couple ou se paxent. Il faut savoir peut-être aussi, en donnant quelques chiffres, qu'à l'heure actuelle, il y a presque autant de paxes hétérosexuels que de mariages hétérosexuels chaque année. Et dans quelques années, à mon avis, le nombre de paxes va excéder celui de mariage.
Alors, petite précision, vous avez enquêté auprès de Français issus de tous les milieux sociaux et qui se sont mariés avant l'âge de 30 ans et il s'agit de couples hétérosexuels.
Oui, dans cet ouvrage, La passion du mariage, je me suis limitée à une population assez réduite pour pouvoir vraiment observer les différences sociales et les différences qui se manifestent dans la compréhension, dans la réalisation surtout du mariage entre hommes et femmes. Je voulais avoir vraiment une population homogène. Mais actuellement, je travaille sur une enquête réalisée par l'INED, une enquête quantitative sur l'ensemble de la population. et je peux explorer du coup toutes les formes de couple qu'ils aient été conclus dans les années 70 ou au contraire récemment. Et les remariages aussi, ce qui n'était pas le cas dans ce premier ouvrage.
Alors l'esthétisation du mariage, de la fête de mariage, c'est pas nouveau. Qu'est-ce qui change aujourd'hui ? Le mariage est devenu une performance esthétique ?
Oui, ce qui change, évidemment, toutes les fêtes, et en particulier les fêtes de mariage, sont des belles fêtes. Mais ce qui change, c'est la place de cette exigence d'esthétisme dans la construction et l'élaboration de la fête de mariage. C'est-à-dire que dans les années 70, déjà, on faisait des fêtes souvent importantes, avec un intérêt, évidemment, pour choisir les mets, choisir les costumes, etc. Mais c'était finalement beaucoup plus simple que ce n'est à l'heure actuelle. L'esthétisme, en fait, là, est vraiment placé en amont de la construction du mariage. C'est-à-dire que ce n'est pas un plus, finalement, pour la fête, mais c'est vraiment une exigence qui traverse chaque préparatif et chaque moment passé au préparatif.
Alors, le plus beau jour de la vie des époux, bah, c'est plus une métaphore, hein, c'est une réalité visible. C'est ce qui ressort de votre ouvrage.
Oui, c'est ce que je dis. En fait, à l'heure actuelle, le plus beau jour de la vie doit être pris au sens propre. En fait, ce n'est plus une métaphore pour désigner le premier jour de la vie de couple qu'on espère magnifique et pour la vie. C'est un jour qui doit être absolument réussi et splendide, absolument pensé dans tous ses détails et dans tous ses moments. C'est pour ça que, en général, on le voit aussi dans tous les sites de préparation au mariage, dans tous les ouvrages, dans tous les magazines. Cette formule, le plus beau jour de sa vie, est répétée à l'envi. Et il faut vraiment le prendre au sens propre.
Guimet Odissino, c'était le plus beau jour de votre vie et votre mariage ?
Oui, mais j'avoue que il y en a eu d'autres qui ont été nettement beaux aussi. Mais moi, je ne sais pas si je fais partie de... Mon Dieu, je me sens vieille là. Moi, je me suis mariée jeune. C'est ma maman et mes beaux-parents qui ont organisé le mariage. Nous n'avons pas fait appel à un organisateur ou à une entreprise quelconque. On a pris le super resto du coin de la campagne qu'on aimait bien. Et oui, après une petite fixette sur la robe de mariée. Mais enfin bon, ça quand même, on peut, on est autorisé. Donc pour ma part, j'étais habillée en meringue, j'étais délicieuse, j'avais des fleurs partout. Enfin, on me voyait très très loin, avec un chignon avec des bouclettes. Enfin, le rêve de la jeune fille. Mais ce côté industriel de la chose, moi, j'ai pas vécu.
Alors, Florence Payochon.
Parce que j'étais jeune, parce que vous êtes mariée dans les années 90.
Alors attendez que je réfléchisse.
Au début des années 90. Voilà. Tout a changé à la fin des années 90. Enfin, ça a commencé à
évoluer. Qu'est-ce qui a changé dans les années 90 ?
Ben, ce côté un petit peu artisanal, si on peut dire, du mariage qu'a décrit Guillemette. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une professionnalisation de l'organisation du mariage, de la part des époux, en particulier des épouses d'un côté, mais aussi du côté du commerce, en fait, qui a bien sûr vu le filon et qui propose désormais de nombreuses choses pour consommer.
Les couples se marient le plus souvent au beau jour, même si la saisonnalité du mariage a profondément changé au cours du XXe siècle. C'est à partir des années 70 que l'on se marie surtout l'été ?
Ça a commencé un petit peu avant, dans les années 60, mais ça s'est accéléré vraiment à partir des années 90, justement, à partir de...
Je suis un jalon.
Voilà, vous êtes une précurseuse. C'est-à-dire que dans les années 50, en fait, presque tous les mois, on avait le même nombre de mariages, avec une petite exception pour le mois d'avril. Et puis à partir des années 90, et en particulier dès 95, on voit vraiment une explosion des mariages pendant les mois d'été, donc mai, juin, juillet, août, septembre aussi. Et désormais, on a à peu près les trois quarts des mariages qui sont concentrés dans un quart du temps. Donc, et un quart du temps, ça veut dire...
Les beaux jours.
Ça veut dire quelques samedis. Donc vous voyez vraiment la pression aussi qui existe et qui surenchérit la difficulté des préparatifs puisque tout le monde veut se marier en même temps.
Y a-t-il une différence fondamentale entre les mariages de la saison froide et les mariages des beaux jours ?
Alors, oui, très certainement. Mais les chiffres que je vous ai donnés jusqu'à présent étaient ce sont des statistiques issues de l'état civil, donc qui concernent les mariages civils. Ce qu'on observe, donc, c'est que il y a effectivement, même pour les mariages civils, une concentration sur l'été. Mais ce qui serait intéressant de voir, et malheureusement on n'a pas de données statistiques sur cet aspect, c'est la concentration des mariages, des fêtes de mariage pendant l'été, qui est sans doute encore plus fort. Parce qu'un certain nombre de gens qui se marient l'hiver, souvent pour des raisons administratives, pour faire vite, se marient, font la fête, c'est-à-dire, mais se marient vraiment pour eux, c'est-à-dire font la fête en été. Mmh.
Donc, il y a une dissociation.
Il y a une dissociation. C'est quelque chose aussi qui caractérise les mariages à l'heure actuelle. C'est la dissociation et la reproduction de plusieurs fêtes en fonction du civil, religieux, en fonction aussi de cercles qu'on souhaite inviter.
Guy Méthodicino.
Non, mais je me demandais si ça existait toujours, le fait qu'on ne se marie pas au mois de mai, parce que c'est le mois de Marie.
Non.
Parce que dans les mariages religieux, il y a très longtemps... moi, on me disait, ah ben non, on se marie pas au mois de mai, c'est le mois de la Vierge. Donc,
oui, c'est vrai, j'ai entendu ça.
Ça faisait sauter un mois entier, ça. C'est pour ça qu'après, tout le monde était à la bourre sur le mois de juin. Non, mais c'est vrai, quoi. Non. Ça existe plus du tout, ça.
Alors, statistiquement, ça ne se voit plus.
Cet empêchement.
Il y a à peu près 20% des mariages qui sont conclus au mois de mai, comme au mois de, un petit peu moins qu'au mois de juin et de juillet, mais très peu de différence, mais qui s'explique d'une part du fait que c'est c'est un dicton catholique, et en fait finalement le mariage catholique est en perte de vitesse.
Bonjour Nathalie.
Bonjour.
Vous animez un blog La Mariée en colère. Comment s'est déroulé votre mariage il y a quelques années? C'est un bon ou un mauvais
2011.
Souvenir 2011.
Oui, non, c'était un très bon souvenir. C'est plus la partie préparative du coup qui m'a fait créer ce blog. Justement, tous les autres sites disaient que c'était génial, extraordinaire de préparer son mariage. Et moi, je voyais que c'était un petit peu plus compliqué que prévu. Il y avait beaucoup d'invités qui se rendaient pas compte. Justement, je me mettais toute une pression dont vous parliez auparavant et que je m'imaginais pas du tout. Et voilà, du coup, j'ai créé La Mariée en colère en disant, non, c'est pas que du bonheur d'organiser son mariage, parce que justement, c'est une pression monstrueuse et il faut arriver à faire redescendre un peu tout ça, quoi.
Et comment s'est passé le jour J?
Alors le jour J,
le plus beau jour de votre vie.
Ouais, exactement. C'était le gros imprévu, en fait. Ça a été la pluie. C'est la seule variable, on va dire, qu'on peut pas vraiment maîtriser. C'était la pluie. On pensait que ça allait aller. Et puis finalement, après la mairie, tout le monde était sur le parvis. Et là, il y a eu un abado, mais énorme, qui arrivait d'un coup, et tout le monde s'est éparpillé à droite, à gauche, on est parti en voiture, aux voitures en courant, etc. Et nous, la voiture n'était pas arrivée, du coup, on a dû aller se réfugier sous la cathédrale Péberlan à Bordeaux, qui ne célèbre aucun mariage. Mmh. Et en fait, donc, on était juste 4 ou 5, et il y avait des gens qui passaient, on était sur le perron en train de s'abriter, il y avait des gens qui passaient en se disant, mais c'est quoi ces pauvres mariés qui n'ont pas d'amis, ils sont que 4 ou 5 à leur mariage.
Alors, Nathalie, sur votre blog, vous publiez des témoignages de mariés qui racontent leur couac et petites catastrophes. Et il y a un article qui m'a amusé, c'est la gestion des invités aigris le jour du mariage.
Oui, il y en a toujours. Hein. Il y a toujours des gens qui mettent pas. Voilà, si pour nous c'est le plus beau jour de notre vie, il y a toujours des gens un petit peu, qui sont toujours en train de critiquer et qui du coup font des réflexions pas très sympas. Donc, c'est important d'en parler. On parle aussi, par exemple, des pires excuses pour pas venir à un mariage. C'est tout ce genre de sujet en fait qu'on aborde avec humour pour se dire, faut dédramatiser et puis remettre au centre du sujet quelle est la vraie notion de réussir son mariage, quoi.
Merci beaucoup Nathalie d'être intervenue. On s'intéresse aujourd'hui au plus beau jour de notre vie, paraît-il, la fête de mariage, avec la sociologue Florence Maillochon. Alexia Rivière, Clara Marliot, Théo Denmat, Manon Rax et Philippine Rouvière m'ont aidé à préparer cette émission. Et c'est Céline Hila qui réalise.
So don't forget it. It's just a silly phase I'm going through. And just because I call you up, don't get me wrong, don't think you got it made. I'm not in love, no, no. Oh,
Tennessee interprété I'm Not In Love.
Michel, mille félicitations pour ce mariage.
Grand bien vous fasse.
On dit souvent que pour savoir comment sera ta femme dans 30 ans, il faut voir sa maman, eh bien...
Sur France Inter.
Pardon, Michel.
Moi, baisser le budget, on l'a déjà fait plusieurs fois. Hein. Je suis pas contre essayer encore, c'est pas un problème.
Bah, c'est l'idée, ouais. Hein, je vous cache pas.
Bah, j'avais un peu compris, je vous cache pas. Mais c'est ce que je dis souvent aux clients, vous avez choisi une salle magnifique. Hein, en plein Paris, dans un hôtel de luxe, vous recevez 200 personnes. Hein, ça ne peut pas être n'importe quoi. C'est un mariage, hein, ce n'est pas une kermesse. Donc, il faut maintenir un certain standing. Et donc, ça signifie un certain prix. On ne peut pas baisser indéfiniment. Ça.
Écoutez, en fait, pour être franc, on a l'impression que vous n'avez pas très envie de nous aider à trouver des solutions. Là.
Ah bon? Et pourtant, il me semble quand même que j'ai essayé de vous accompagner, que j'étais plutôt à l'écoute.
Non, en fait, on trouve que vous n'êtes pas très inventif.
Inventif? Inventif. Alors là, pour le coup, il me vient quelque chose d'assez inventif. Oui, on supprime l'entrée. Je vous suis là-dessus.
Très bien.
Là, je suis complètement. C'est vrai. C'est une bonne idée. Mais on fait aussi l'impasse sur le plat principal. On oublie aussi les milliardises. À la place, compote, mais du choix. Pomme poire, pomme fraise, pomme banane. Et servi à la louche. À la louche. Hein, c'est assez inventif, ça. Parce que si vous voulez... Je peux avoir d'autres idées, et là je vous garantis que vous serez dans la partie mais basse de la fourchette, vous serez même dans le manche.
D'accord. Ben, on va réfléchir, hein?
Un extrait du Sens de la fête de Toledano et Nakache. Florence Maillochon, je rappelle que vous êtes sociologue et l'auteur de La Passion du mariage. Alors, beaucoup, beaucoup de futurs mariés recherchent évidemment la salle de leurs rêves. C'est une quête digne du Graal, hein, la quête du lieu extraordinaire.
Oui, c'est très important. Tout à l'heure, on a entendu la mariée en colère qui disait que il fallait tout concevoir, tout maîtriser en fait, et que finalement la seule chose qu'on ne pouvait pas maîtriser, la seule variable, c'était le temps. Ça veut dire que tout le reste est pensé en amont. Donc du choix des lieux géographiques où on va se marier au choix de la salle qui préoccupe beaucoup les futurs mariés parce qu'elle doit correspondre justement à leur goût qui s'avère souvent des goûts assez socialement marqués, on peut dire. C'est-à-dire qu'ils sont finalement ceux qu'ils observent dans le commerce.
Le paradoxe, c'est que l'on recherche la distinction et finalement on opère des choix assez conformistes.
Oui, c'est le propre de cette société qui cherche la personnalisation, c'est-à-dire qu'on cherche en même temps la différence, l'originalité, donc il faut être original, là comme dans l'extrait qu'on vient d'entendre, et en même temps pour que l'originalité soit perçue à sa juste valeur et soit compréhensible par les invités, par exemple, sans faire de flop, il faut qu'il y ait quand même aussi une certaine dose de conformisme. Donc toute la difficulté est là, naviguer entre le même et le différent, et c'est ce qui préoccupe largement les époux avant de faire leur mariage.
Et ce qui revient dans votre enquête, c'est la recherche d'un certain luxe, surtout dans les classes moyennes en ascension sociale.
Oui, c'est ça, ce qu'on peut observer, c'est que ce soit la salle de leurs rêves, la robe de ses rêves, etc. En fait, finalement, on observe que tout le monde a, en définitive, une salle de rêve, une robe de rêve. C'est-à-dire que finalement, on a une construction, une imposition des rêves. C'est le principe, en fait, d'une société, de modeler les représentations sociales, de modeler les goûts et aussi de modeler les rêves.
Le château, par exemple.
Le château, par exemple, qui s'est développé dans les années 90, une fois encore, parce que les noces étant de plus en plus célébrées à l'extérieur, notamment en raison de nombreuses choses, c'est-à-dire la transformation de la conjugalité qui fait que les gens habitent déjà chez eux, donc moins dans des propriétés familiales, ils veulent se séparer des propriétés familiales, s'il y a propriété, bien sûr. Tout cela est externalisé. Et finalement, face à la demande de salles très concentrées dans un moment estival, on a eu une explosion de salles dites de luxe ou chic et de bon goût, et donc des châteaux.
Est-ce qu'on se marie encore beaucoup chez soi, à la maison ?
Alors, de moins en moins. Et la réalisation des fêtes à domicile est assez spécifique. Pour certains, elle est une nécessité parce qu'ils n'ont pas les moyens de faire autrement et ils ne peuvent pas s'endetter pendant des années. Mais c'est assez rare. Et les personnes qui font des fêtes chez eux, en général, ne réalisent pas ce qu'ils disent. Enfin, ils disent ne pas avoir fait un vrai mariage. Finalement, ils sont toujours en manque. Donc, on voit bien que la norme est ailleurs. Et les personnes qui font en général des mariages dans des propriétés familiales, donc en général de milieux relativement différents, le font parce que éventuellement un château ou un manoir, ou le font parce que ils font plusieurs fêtes, donc une fête éventuellement avec la famille, puis refont une fête dans un lieu plus à leur goût, plus de rêves, avec leurs amis par exemple et d'autres cercles d'invités.
Alors on assiste à des mariages de plus en plus personnalisés avec un soin apporté à la décoration. C'est devenu essentiel et vous parlez même de pression à la décoration. Et ça touche tous les milieux.
Oui, ça fait partie de cette exigence de tout coordonner, de tout rendre beau en amont. C'est-à-dire que tout est pensé pour être absolument parfait. Pour réussir sa fête, il faut que la fête soit esthétiquement parfaite et contrôlée sous tous ses points. Donc, cette décoration, elle concerne tous les éléments du cadre du mariage. Donc, elle concerne les lieux. Elle concerne les costumes aussi,
la voiture,
les fleurs.
Ouais. Il y a une infinité de petits détails comme ça qui doivent être pensés en amont pour pouvoir être coordonnés. Et en fait, cette coordination, elle se développe avec l'invention. Une invention encore récente, fin des années 90, années 2000, du thème du mariage.
Ah oui.
qui s'est imposé à ce moment-là et qui permet de donner une cohérence à tout cette esthétique. C'est-à-dire que pour que justement la voiture du marié soit coordonnée à la robe de la mariée et à celle des petites filles d'honneur, il faut avoir une unité, une cohérence qui est le thème. Comme si finalement, en quelque sorte, cette cohérence donnée à l'image de soi le jour du mariage était aussi un reflet de la cohérence du couple. Je dirais.
Guillemette Audicino.
C'est pour ça qu'on se retrouve, par exemple, quand on est invité à un mariage, à la table Pacifique, ou à la table Atlantique, ou à la table Sable Chaud. Enfin, c'est ça aussi, non ?
Oui, c'est ça.
Enfin, donc... Et là, ça, c'est encore souvent la destination du voyage de noces hein, qui est déclinée dans les tables. Mais il peut y avoir la table de John Lennon, Beatles, parce que les mariés aiment le rock. Enfin,
oui.
Ça, c'est personnalisé à mort, quoi. C'est-à-dire que même les goûts des mariés sont sur le carton, sur la table, en fait, d'une certaine manière.
Absolument. Soit dans le thème, soit à minima sur les noms des tables qui font l'objet aussi de réflexions intenses. Parce que quel thème choisir pour nommer les tables? Et qui, outre qu'elles donnent une cohérence au mariage, arrange bien aussi un certain nombre de mariages à une époque nouvelle où les familles sont recomposées. Et donc, on n'a pas forcément la possibilité de faire une table avec les parents de la mariée et les parents du marié, parce qu'éventuellement, ils sont en couple, ils sont remis en couple. Donc, s'installer à la table pivoine plutôt qu'à la table de la belle-mère qui a... vous voyez ce que je veux dire.
Oui. Florence Maillochon, les cortèges sont un bon moyen de mettre en scène un mariage que l'on souhaite exceptionnel.
Oui, les cortèges existent encore, bizarrement, à notre époque d'automobile. Et ils ont changé de forme. Alors, ils se produisent encore dans les petits villages quand les époux se marient dans des petites communes. Mais sinon, ils se sont aussi transformés en cortèges automobiles, des cortèges qui font beaucoup de bruit et qui sont décorés, évidemment. Et qui sont décorés, là encore, en amont de la fête, c'est-à-dire que chacun ne vient pas avec son morceau de tulle et son bolduc, c'est la mariée qui prévoit justement des décors pour qu'ils soient assortis à l'ensemble.
Et les cortèges à pied permettent de montrer aux passants l'esthétique du mariage.
Oui, d'être vu. En tout cas, je pense que un des aspects importants de cette mise en scène, justement, puisqu'il y a une mise en scène de mariage, c'est d'être vu.
Et d'ailleurs, l'entrée dans la salle de réception est de plus en plus scénarisée.
Oui, aussi. Alors, tout est scénarisé, c'est-à-dire que puisque tous les lieux où l'on se marie ont été décorés, eh bien, il faut aussi penser à tous ces moments de déplacement de l'église, enfin de la mairie à l'église par exemple, de l'église à la salle de réception. Et puis l'entrée en fait dans les salles de réception constitue maintenant un nouveau rite en fait. Je pense que dans les années 90, la question ne se posait pas, les mariés étaient déjà là avec leurs invités, alors que de plus en plus, les invités s'installent dans la salle de réception et accueillent les époux qui arrivent éventuellement en faisant une petite chorégraphie, éventuellement avec des déguisements qui se surajoutent à leur costume de mariage.
Témoignage d'une mariée des années 90.
Bon, alors là, j'étais très en avance, parce que j'étais pas déguisée, faut pas exagérer non plus, mais nous sommes entrés dans la salle de réception au son de Carmina Burana,
oula,
à fond les ballons, oula. Oui, ça faisait, comme ça, au moins, ça posait son truc. Donc là, oui, il y avait la mise en scène de l'entrée dans le restaurant.
Florence Maillochon, petite question cruciale, le jet de riz à la sortie de l'église ou de la mairie, c'est devenu désuet ou pas?
Ça dépend des milieux, ça se pratique encore, mais c'est pareil, ça se prépare en amont, c'est-à-dire que on ne va pas lancer du riz directement sorti d'un sac plastique de chez Auchan. La mariée va préparer des petites pochettes en tissu, par exemple, assorties à quelque chose.
Maintenant, c'est passé aux pétales de fleurs,
ouais.
Parce que le riz, on peut se le prendre dans l'œil. Non, mais c'est vrai, la mariée, elle se les prend dans la figure et on peut glisser sur le parvis.
Il suffit de le cuire, ça fait moins mal.
Non, mais le riz, on peut glisser, les invités peuvent glisser sur les escaliers. Donc moi, on m'a dit que maintenant, ce sont des pétales, oui, de fleurs.
Et ça salit les costumes. Hein,
ouais, ça salit les costumes, c'est quand même ça, je pense, le plus grand problème.
Vous êtes rencontrés comment?
Je défendais un connard contre une connasse et elle défendait la connasse.
Et ça a été le coup de foudre?
Ah non, non, pas du tout, au contraire. Enfin non, pas au contraire, mais je veux dire, on a mis longtemps à s'apercevoir qu'on était fait l'un pour l'autre.
Messieurs, dames, s'il vous plaît, reculez.
Vous préférez la vanille ou le chocolat? Madame,
la vanille.
Pourquoi vous commencez par le chocolat?
Parce que je garde celle que je préfère pour la fin.
Et si vous tomberez de mort entre le chocolat et la vanille? Ou si vous avez plus faim après le chocolat?
Ben, je serais baisé, mais bon.
C'est terrible de mourir avec le parfum qu'on aime le moins dans la bouche, non?
Vous avez peur de mourir?
Pas vous?
Belle maman de Gabriel Aguillon avec Catherine Deneuve et Vincent Lindon.
Oui, parce qu'un mariage à lit, bon, en fait, il faut pas trop le préparer. Car on ne sait jamais ce qui va se passer, alors non seulement dans les 10 ans à venir forcément, mais aussi pendant la cérémonie. La mariée d'ailleurs peut partir en courant au moment de dire oui, surtout si c'est Dustin Hoffman qui vient la chercher, ou même si c'est cet arnaqueur de Romain Duris qui l'attend dans le chemin en dessous. Et puis il ne faut pas croire l'adage populaire. En fait, il n'y a pas que les femmes qui changent d'avis. Vous savez, souvent femmes varient. Non, non, les mecs aussi. Alors dans ce film-là, bah, c'est Vincent Lindon qui est en train de passer l'alliance au doigt de Mathilde Seigné quand il envisage, sur les bancs de l'église, une femme sublime, à la cheville nue et tatouée. Mais c'est qui, bon sang, cette belle de jour? Cette belle du jour J? Merde, c'est sa belle d'œche. Et c'est Catherine Deneuve, ça aide aussi. Hein, toutes les belles-mères quand même. Allez bien, toutes les belles-mères tout de même. Il y a plein de qualités dans cette comédie de Gabriel Aguillon, qui dans les années 90, décidément, on y revient, a fait deux films à la fois populaires et subversifs, avec deux icônes du cinéma d'auteur, donc vous vous souvenez, Pédale douce avec Fanny Ardant, et Cette belle maman avec Deneuve. Alors dans les qualités, d'abord il y a le casting. Alors attention, en termes d'éclectisme, ça se pose un peu là, et ça peut donner des idées pour une liste d'invités à son mariage, histoire de bien rigoler. Alors il y a Lynn Renault, en lesbienne à cigare, à laquelle sa fille, Catherine Deneuve, chante une chanson d'anniversaire extraordinaire où elle rappelle que sa maman préfère les gazons et qu'elle s'est juste fait faire un enfant avant de remettre son pantalon. Il y a Stéphane Audran dans le rôle de la petite amie de Lynn Renault. Il y a Jean-Yann dans le rôle de l'ex-ami, de l'ex-mari de Catherine Deneuve. Il y a Danielle Lebrun. Vous savez, c'était celle qui jouait la sublime garce qui emmerdait tout le temps Claude Brasseur dans Vidocq. Et il y a aussi des ultra-débutants, alors là, Laurent Lafitte, dans son deuxième rôle au cinéma, et Idriss Elba. Idriss Elba, dans son tout premier rôle à l'écran, celui qui est devenu après la star de la série The Wire, qui a joué Nelson Mandela, et qui a failli devenir le dernier James Bond. Après, ils ont changé d'avis, parce que c'était quoi déjà la raison? Ah oui, il était noir. Alors, imaginez donc tout ce beau monde organisant un contre-mariage dans les toilettes où Catherine Deneuve chante du Rita Mitsouko. Alors, il y a une chorégraphie, non mais vous imaginez une choré, où il y a Lynn Renault, Stéphane Audran, Idriss Elba, Catherine Deneuve, Vincent Lindon, en train de faire une chorégraphie au son de Marcia Baila d'Rita Mitsouko. Ça, c'est absolument immanquable. Et puis, il y a cet extrait-là, que vous avez entendu. Ça fait 2 ans que je vous bassine, l'équipe de Grand Bien Vous Fasse, sur cette histoire de vanille et de chocolat. Mais ça partage l'humanité en deux.
Exactement.
Ce qu'elle dit là, Catherine Deneuve, c'est absolument important. Moi aussi, je commence par mon parfum préféré.
Moi aussi.
Vous aussi, Ali. Vous aussi, vous commencez par votre parfum préféré et vous ne le gardez pas pour la fin.
Exactement.
Alors, ça tombe bien. En fait, ça tombe bien que vous me disiez ça. Parce que je me lance. Vous savez, Ali, il y a un grand classique dans les films de mariage. C'est la demande en public. Mmh. Alors moi, je n'ai jamais rencontré personne dans la vraie vie qui a pris le risque de demander sa main à la personne aimée devant tout le voisinage ou ses collègues de bureau ou en plein milieu d'une partie de baby-foot. Hein. Parce que si la personne dit non, franchement, c'est la honte internationale. En même temps, c'est un bon moyen pour la coincer. Alors voilà, vous avez combien d'auditeurs, Ali?
Bon, pas mal, ça va. Mal.
Alors j'ai beaucoup réfléchi. Je sais que j'ai l'âge d'être votre belle-mère.
Oh non.
Mais je ne trouverai jamais un homme aussi beau, qui connaît à la fois la recette du couscous, la philosophie zen, Aristote, le fonctionnement de l'intestin, les modes de vie, la psychologie, la famille, la santé, la sexualité, et surtout un homme qui m'écoute, comme maintenant, avec autant d'attention. Alors, je vous le demande. Ali Rebbehi, voulez-vous m'épouser? Réfléchissez bien, il y a 1 million de témoins qui nous écoutent.
Oui. Et vive la polygamie, hein. Merci beaucoup, Guillemette. On s'intéresse aujourd'hui au plus beau jour de notre vie, paraît-il, la fête du mariage avec la sociologue Florence Maillochon.
Si tu veux que je chante, ne sois pas infidèle. Ne me crois pas si fort, ne me crois pas si faible, que je puisse accepter la brûlure et le froid, sans perdre le sourire, sans perdre la voix. Si tu veux que j'entende, sois désormais plus clair, ne me roule plus dans rien, ne brouille plus mes repères, sous peine de relancer les comment, les pourquoi, qui font perdre patience, qui font perdre la foi. Inutile de m'attendre, une impatiente oreille, le goût de toi me manque, mais rien ne se réveille, les paroles ne viennent plus, la musique n'est plus là. Va comme sec est mon cœur, va comme sec sans mes bras. Les paroles ne viennent plus, la musique n'est plus là. Va comme sec est mon cœur, va comme sec sont mes bras.
Stéphane Echer, interprété Si tu veux.
Acceptes-tu de prendre pour épouse Alexandra et ben Joséphine ici présente?
Grand bien vous fasse.
De l'aimer et de l'honorer. De l'aider à faire les courses, la vaisselle, le ménage. De mettre tes vêtements sales dans le panier à linge. De relever la lunette des toilettes. De rincer la baignoire après ton bain.
Sur France Inter.
Jusqu'à ce que la mort vous sépare.
On s'intéressait à la fête de mariage, paraît-il, le plus beau jour de sa vie. Quelques messages sur notre page Facebook. Mouche qui nous dit nous sommes mariés en février en mairie avec nos seuls témoins. Et samedi dernier, nous avons fait la fête du mariage chez nous avec une petite cérémonie dans un champ voisin animé par un ami conteur. Marie nous dit, je remarque que beaucoup de mariages sont mis en scène avant la cérémonie sur les réseaux sociaux. Ça peut paraître un peu étonnant, mais ça arrive. Et puis Karine nous dit, nous avons attendu 26 ans pour nous marier. Nous souhaitions un mariage simple et convivial. Nous avons donc fait un mariage participatif sur 3 jours avec une cérémonie laïque. Mariage participatif, c'est fréquent ça, Florence Maillochon? Je rappelle que vous avez publié La Passion du mariage.
C'est en plein développement, le mariage participatif, je pense. Mais peut-être parce qu'on est arrivé à une fin de cycle, c'est-à-dire qu'à partir des années 90, la mise en scène du mariage pour réaliser presque un mariage spectacle en quelque sorte s'est développée, et je pense qu'on est atteint dans certains cas un tel stade de développement et de pression sur l'esthétique que finalement certaines personnes en reviennent en quelque sorte et commencent à faire des choses un peu plus simples. Et le mariage participatif est un moyen de transformer les relations avec les invités, c'est-à-dire que ce n'est plus justement le couple qui organise tout pour tout le monde, mais aussi les invités qui aident et qui amènent par exemple des plats, des fleurs, etc. Et ça se développe, de même que les mariages laïques en fait.
Et sur la mise en scène de la préparation des mariages sur les réseaux sociaux?
Oui, ça se pratique. Ouais. Alors la mariée en colère, tout à l'heure, on en parlerait sans doute mieux que moi. Mais en effet, les mariés qui passent beaucoup de temps à réfléchir à l'organisation de leur mariage ont souvent besoin aussi de mettre en scène leur travail, qui est un travail de l'ombre, mais un travail néanmoins très, très prenant. C'est pour ça que j'ai intitulé mon ouvrage « La passion du mariage ». C'est-à-dire que c'est une passion au départ, comme un loisir en quelque sorte pour les épouses, de penser à leur mariage, de penser à tout ce qu'elles vont faire, à la robe, etc. Et progressivement, en raison de cette pression à réussir son mariage, à faire une belle fête, cette passion se transforme en travail vraiment important, voire complètement envahissant pour certaines. Et c'est pour ça que ça se transforme en une passion, presque au sens religieux du terme, qui occupe principalement leur activité, toutes leurs activités.
Bonjour Antoine Lee.
Bonjour.
Grand reporter de l'émission. Vous avez rencontré un couple qui a vécu une fête de mariage cauchemardesque.
Oui, alors elle s'appelle Alexia et lui Emmanuel. Alors ce couple de trentenaires s'est marié il y a bientôt 2 ans. Ce jour-là, ils avaient convié 150 personnes pour assister à leur mariage. Tout était prêt, ils avaient tout planifié, mais au dernier moment, un imprévu a mis à mal tout leur plan.
Ça faisait un peu plus d'un an qu'on préparait le mariage et le traiteur, on l'avait booké plusieurs mois avant la cérémonie, mais la veille donc de la cérémonie, le vendredi soir, pendant la nuit, enfin vers 23h, j'ai reçu un texto me disant qu'il était hospitalisé et que de ce fait, il ne pourrait pas assurer la prestation du lendemain.
Puis après, on a vraiment su qu'en fait, cette histoire d'accident était impossible parce que le camion frigorifique avec lequel était supposé avoir l'accident était déjà saisi. Il ne l'avait même plus à ce moment-là.
On était tristes, quoi, quand même. Il nous avait quand même gâché une journée qu'on préparait depuis longtemps. Et c'est dur, quand même, d'encaisser ce qui s'est passé, quoi.
Ouais, c'est un peu violent, quand même. Donc c'est vrai qu'on réagit très vite parce que... on n'a pas vraiment le choix, tout simplement. Voilà, c'est fait, quoi. Et puis en fait, moi, je me suis dit, non, c'est pas possible, faut vite qu'on trouve autre chose.
Notre réaction, ça a été d'appeler un certain nombre de nos amis, ceux qui pouvaient être capables de réagir vite et de nous aider dans ce genre de situation.
En plein milieu de la nuit, vous les appelez?
Oui.
Faire appel à un traiteur de dernière minute, ça voulait dire repayer une somme, sachant qu'on avait déjà payé entre 7 et 8 000 euros, donc voilà, ça voulait dire repayer une grosse somme. On voulait pas faire ça, donc on est parti sur une solution plus alternative en fait. On s'est dit c'est plus marrant, plus cool de faire un truc qui puis moins cher. Donc finalement on a eu cette solution idéale, c'est un ami qui a un food truck.
Un food truck, c'est un camion où on fait de la restauration dedans quoi. Il y avait quoi au menu alors finalement?
Alors bah du coup comme c'était un food truck fish and chips, c'était un fish and chips et poisson pané avec frites et puis purée de petits pois, voilà. Et donc effectivement un côté festival de rock. Finalement, ce qui nous allait bien, on était plutôt à la fin, c'est les gens ont trouvé ça marrant et super chouette. Et les gens eux-mêmes, évidemment, dès qu'ils ont su ça, il y a eu un élan de solidarité. Et les gens ont ramené plein de trucs, des coffres entiers avec des boissons, des trucs. Chacun était un peu spécialisé dans un truc. Enfin, c'était marrant.
Aujourd'hui, avec le recul, quel bilan vous tirez de cette galère, en fait ?
Ça a fait relativiser, en tout cas, sur l'importance qu'on peut donner à ce jour-là. Et cette préparation qui dure un an, dans laquelle on s'investit autant, parfois, je pense qu'on peut se permettre un peu plus de spontanéité et d'improvisation dans ce genre d'événement et pouvoir faire quelque chose de très bien. Enfin, quand on voit qu'on a réussi à faire ça en une nuit, finalement, on s'en est pas trop mal tiré. C'est dommage qu'on n'y ait pas pensé avant, en fait.
En fait, on peut remercier ce traiteur qui vous a planté au dernier moment ou pas ?
Le remercier, bon, quand même, on lui en veut un peu, mais mais d'un autre côté, vu que ça s'est très bien passé, finalement, le mariage est presque plus ressemblé à ce que moi j'aurais aimé, c'est-à-dire un truc, ouais, un peu plus rock'n'roll, finalement, un peu plus à la cool. Et d'ailleurs, c'est ce que les gens nous ont dit, ah, ça vous ressemblait ce mariage, du coup, voilà, donc les gens presque étaient encore plus contents, ça s'est bien fini.
Et tout s'est tellement bien fini que depuis 7 mois, Alexia et Emmanuel sont les heureux parents d'un petit Hector.
Reportage signé Antoine Lee. J'étais ravi de vous avoir dans l'émission cette saison. Merci Antoine.
Merci beaucoup.
Bonjour Manon Rax.
Bonjour.
Collaboratrice de l'émission. Vous terminez un mémoire à Sciences Po Toulouse consacré à une émission de télévision qui met en scène une compétition de mariage.
Oui, savez-vous que la mise en scène de la cérémonie du mariage est un grand classique des émissions de télévision ? Et la plus emblématique d'entre elles s'appelle « 4 mariages pour lune de miel ». C'est diffusé tous les jours de la semaine sur TF1 depuis août 2011.
Quatre futurs mariés ont décidé de mettre le plus beau jour de leur vie en compétition. Pour toutes, un seul objectif, remporter une incroyable lune de miel.
En presque 7 ans, chaque semaine, on a vu 4 nouvelles mariées, appelées les mariées juges, s'affronter, se noter de 0 à 10 dans 4 catégories, le lieu de la réception, le repas, l'ambiance et bien sûr, la robe de mariée. Remarquons que l'on ne note ici que les femmes, qui sont donc représentées comme seules responsables du mariage. D'ailleurs, pour les couples que j'ai pu rencontrer dans mes recherches, autant la volonté de se marier comme celle de participer à l'émission vient à chaque fois de la mariée. Mais plus que ce biais de genre, moi ce qui m'a interpellée dans cette émission, pour que j'y consacre un mémoire, c'est que l'on voit chaque jour des femmes mettre en compétition, donc vraiment pure et dure, ce jour qui est aussi présenté comme la consécration de leur rêve de petite fille. Or, et c'est d'ailleurs ce que vous écrivez Florence Maillochon, si aujourd'hui les couples se marient, c'est principalement pour des raisons d'apparat, pour faire une grosse fête qui va servir de vitrine au couple. Et dans l'émission 4 mariages pour lune de miel, on pousse cette fonction à son extrême, puisque les mariés vont mettre en scène leur mariage pour les caméras de TF1, en offrant ce jour en pâture aux commentaires les plus malveillants de la part des autres mariés juges. En notant ce qui sera considéré comme le plus beau des mariages, on ouvre la porte à une extrême standardisation de ce qu'est un mariage réussi.
Alors c'est quoi un mariage réussi justement, Manon Rax ?
Alors c'est là que ça devient intéressant, parce que sur toute une saison de l'émission, les mariages qui gagnent sont en très grande majorité les mariages les plus chers ou les plus chics. Or, les mariés qui s'affrontent ont tous des budgets très différents par semaine. Ça va de 4000 euros à 35000 euros. On va donc hiérarchiser les mariages selon leur prix et a fortiori les couples selon le budget qu'ils consacrent à la cérémonie.
On a choisi de faire des jeux originaux. On a vraiment envie que nos invités s'amusent, qu'ils repartent avec la banane.
Là, je vais être intransigeante. Si on commence à partir dans des jeux côté tourner les serviettes, faire la chenille, c'est vraiment pas pour moi.
Comme ce qu'on vient d'entendre, l'émission est parsemée de petites phrases illustrant un certain mépris social à propos des mariages qui vont avoir un buffet et non un service à table, un gâteau simple plutôt qu'une pièce montée. Et on entend assez régulièrement des sorties comme « ça fait camping »,« ça fait cantine » ou encore « on ne joue pas dans la même catégorie ». Et le plus grave pour moi, c'est que cette norme d'un beau mariage va être intériorisée par les mariés qui elles-mêmes ont un budget très restreint. Donc celles-ci, elles vont par exemple donner une très bonne note pour une décoration d'une autre candidate, une déco qu'elles ne pourront de toute façon pas se payer. Et elles vont sanctionner encore une autre candidate qui va faire quelque chose qui ressemble davantage à leur mariage. Et on va assister à une sorte d'humiliation et d'auto-humiliation sociale.
ce qui est une des bases de beaucoup d'émissions de télé-réalité. Mais là, on le fait à propos d'un jour qui devrait rester, selon la formule, le plus beau de notre vie.
Commentaire de la grande spécialiste Florence Maillochon sur ces émissions-là, en quelques mots.
Oui, ces émissions, en fait, montrent vraiment la dure réalité de cette idéologie individualiste qui traverse notre société à l'heure actuelle. Alors, idéologie individualiste, ou on pourrait peut-être dire personnaliste, qui fait que finalement, chacun vit avec l'illusion, parce qu'il s'agit vraiment d'une illusion, qu'il peut se réaliser et arriver à réussir sa vie, réussir son mariage, réussir dans tous les domaines de sa vie, quel que soit son milieu, quelle que soit son origine, quelles que soient les données qui ont été culturellement, culturelles qu'il a au départ.
Dernière question fondamentale, la pièce montée, c'est ringard ou pas?
La pièce montée, oui, le gâteau des mariés, non.
Les wedding cakes, hein, c'est important. Des États-Unis, oui. Ça a beaucoup de succès. Ça.
Oui, ça a du succès parce que c'est très visuel.
Ouais. Encore une fois, ça fait bien sur les photos. Vous reviendrez, Florence Maillochon, parce qu'il y a encore des tas de choses à dire sur le mariage. Je recommande vraiment cet ouvrage de référence publié au PUF. Ça s'appelle La passion du mariage. Merci beaucoup, Florence Maillochon, d'être revenue. Et merci, Manon Rax.
De rien.
Merci beaucoup. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur le site de Grand Bien Vous Fasse. Je vous souhaite une excellente journée à l'écoute de France Inter.
Keep it burning. It's a burn like a tire. Me have a burning sun. And if we try for retire, me leave them yearning. None can hold my flame. No, he can't quench, can't cool, can't tame. Since the devil don't like it himself, he turn it down. So me just give him the fire, I'll make it burning. Coffee pon the street, tank top in a the heat. Jeans, pants and Crocs, no socks left on me feet. Knapsack with me a beat. Well, pack up on the need. Stay woke, no sleep. Me no little book keep. Money pon me mind, but me never have a kind. Nah, cause me just a hustle for the pretty dollar sign. I never no fun time. Life rough sometime. But me know me and me mommy happy see the sunshine. That's why me
come with the fire, the city burning. Don't me just a turn it up fire and keep it burning. It's a burn like a tire, me have a burning sun. And if we try for retire, me leave them yearning. None can hold my flame. No, he can't quench, can't cool, can't tame. Since the devil don't like it himself, he turn it down. So me just give him the fire, I'll make it burning.
What become a Peter? Mommy say be doctor, granny say be preacher. Muffy be a rasta, daddy say be neater. Peter never like that, so him take the streets. Everybody born with the talent to fi feature. Blessings in abundance, so we fi cherish each. Never be ungrateful, life is such a teacher. Buffy pan upset a track, see me bring the heat, yeah.
Come with the fire, the city burning. Don't me just a turn it up fire and keep it burning. It's a burn like a tire, me have a burning sun. And if we try for retire, me leave them yearning. None can hold my flame. No, he can't quench, can't cool, can't tame. Since the devil don't like it himself, he turn it down. So me just give him the fire, I make it burning.
Run up and down, have them a run up and down. Yeah, coffee with the dance sound. Anytime he come round, a madness bunny compound. Man a ton, fool a ton, clown. But Jaja cover my journey, I beg you guide it. And any trouble me see, help me avoid it. Me no say anything, me nigga will provide it. Anyway, still what a dime, lead me beside it.
Come with the fire, the city burning. Don't me just a turn it up fire and keep it burning. It's a burn like a tire, me have a burning sun. And if me try for retire, me leave them yearning. None can hold my flame. No, he can't quench, can't cool, can't tame.
Grand bien vous fasse sur France Inter.
Yeah.
sensations.